Chapitre 3. Le château du roi cramoisi. 1. Il se trouvait à 1,5 km du château, et le grondement du fleuve encore invisible était devenu presque assourdissant lorsque banderoles et affiches commencèrent à apparaître. Les banderoles étaient faites de bandes bleues, blanches et rouges, du genre de celles que Susanna associait au défilé de Memorial Day et aux rues principales de Petiteville le 4 juillet. Accrochées aux façades de ces maisons étroites et frileuses et aux devantures de boutiques fermées depuis longtemps et vides de la cave au grenier, ces décorations prenaient des airs de rouge à lèvres sur la bouche d'un cadavre en décomposition. Quant aux visages sur les affiches, Susanna ne les connaissait que trop bien. Richard Nixon et Henry Cabot Lodge brandissaient le V de la victoire et arboraient un sourire de vendeur de voitures. « Nixon Lodge, parce qu'il reste du pain sur la planche », disait le slogan. John Kennedy et Lyndon Johnson se tenaient par l'épaule tout en levant leurs mains libres. En dessous de leurs pieds apparaissait cette proclamation pleine d'audace. « Nous sommes devant une nouvelle frontière ».
« Une idée du gagnant ?»
demanda Roland par-dessus son épaule. Susanna était à bord du taxi de luxe de Hoffat et observait le décor, tout en se languissant d'un pull. Même un petit gilet lui irait très bien, sacrebleu. Oh oui, elle n'avait aucun doute sur le fait que ses affiches avaient été placées là à son intention à elle.
« C'est Kennedy qui a gagné.
Il est devenu votre dean ?»
Le dean de tous les États d'Amérique. Et c'est Johnson qui a pris le relais quand Kennedy s'est fait abattre.
« Tué par balle, tu dis ainsi ?»
demanda Roland, l'air intéressé.
« Si fait.
Abattu par un lâche planqué du nom d'Oswald.
Et vos États-Unis étaient le pays le plus puissant du monde.
Eh bien, la Russie nous donnait du fil à retordre au moment où tu m'as chopé par le col pour me traîner dans l'entre-deux-mondes. » Mais je dirais que oui, pour résumer.
Et les gens de ton pays ont choisi leur dîne eux-mêmes. Ça ne se faisait pas par les liens du sang.
C'est exact, dit-elle avec une pointe de méfiance. Elle s'attendait presque à voir Roland tirer à boulet rouge sur le système démocratique ou à s'en moquer. Mais il la surprit en répondant simplement
« Pour citer Blaine Le Monod, qu'est-ce qu'on se marre ?»
« Fais-moi plaisir. Ne le cite pas, Roland. Ni maintenant, ni plus jamais. D'accord ?»«
Comme tu voudras, » dit-il. Et sans transition, mais à voix beaucoup plus basse, il enchaîna. « Tiens mon pistolet prêt, si ça te sied. »«
Ça me sied parfaitement, » répondit-elle immédiatement, à voix tout aussi basse. Mais ce qui sortit ressemblait plus à
« Ça me sied parfaitement. »
car elle ne voulait même pas bouger les lèvres. Elle sentait à présent qu'on les observait depuis les bâtiments qui s'agglutinaient à cette extrémité de la voie du roi, comme des échoppes et des auberges dans un village médiéval, ou un décor de cinéma représentant un village médiéval. Elle ne savait pas si les espions étaient des humains, des robots, ou simplement des systèmes de surveillance vidéo toujours en état de marche, mais l'intuition de leur présence ne lui avait pas échappé, avant même que Roland vînt confirmer son soupçon en la mettant en garde. Et elle n'eut qu'à regarder la tête dotée qui oscillait d'avant en arrière comme le pendule dans une vieille horloge de grand-père pour savoir que lui aussi sentait quelque chose.
« Et c'était un bon dîn, ce Kennedy ?»
demanda Roland en reprenant une voix normale. Elle portait bien dans ce silence. Susanna se rendit compte qu'un changement tout à fait délectable. Pour une fois, elle n'était pas frigorifiée, même si aussi près du fleuve rombissant, l'air était chargé d'humidité et glaciale. Elle était trop concentrée sur le monde qui l'entourait pour avoir froid, du moins pour l'instant.
Eh bien, tout le monde n'était pas de cet avis. Et en tout cas sûrement pas le malade qui l'a tué, mais moi je trouvais que oui. Pour sa campagne, il a expliqué aux gens qu'il voulait faire changer les choses. Probablement moins de la moitié des électeurs l'ont cru, parce que la plupart des hommes politiques mentent, pour la même raison que le singe se balance au bout de sa queue, tout simplement parce qu'il le peut. Mais une fois élu, il a bel et bien commencé à accomplir ce qu'il avait promis. Il y avait un vrai combat de titans au sujet d'un endroit qui s'appelle Cuba, et il a montré autant de courage que... Enfin, disons que tu aurais été heureux de chevaucher avec lui. Quand certains se sont rendus compte qu'il était vraiment sérieux, ces enfoirés ont engagé un taré pour le tuer.
Oswald. Elle opina sans prendre la peine de corriger, parce que, en fait, il n'y avait rien à corriger. Oswald. Oz. On bouclait une nouvelle fois la boucle, pas vrai?
Et Johnson a repris le flambeau là où Kennedy l'avait lâché.
Ouais.
Et comment il s'en est tiré, lui?
Il était encore trop tôt pour le dire, quand je suis parti. Mais c'était plus le genre de gars à suivre les règles du jeu. Pas de vagues, rien qui dépasse, on disait. Tu intuites?
Oui, tout à fait. Et Susanna, je crois que nous sommes arrivés.
Roland immobilisa le taxi de luxe de Hoffat. Il se tint là, enveloppant les poignets de ses poings, à contempler le casse-roi russe. 2. Là s'achevait la voix du roi, se fondant dans une vaste avant-cour pavée où devaient autrefois monter la garde avec zèle les hommes du roi cramoisi, pareils aux hallebardiers de la reine Élisabeth devant Buckingham Palace. Un œil qui n'avait presque pas pâli avec les ans était peint en écarlate sur les pavés. Au niveau du sol, on ne pouvait que deviner sa forme. Mais du haut du château même, se dit Susanna, l'œil devait occuper toute la cour nord-ouest.
Ils ont dû coller ce foutu truc à tous les points cardinaux,
pensa-t-elle. Au-dessus de cette cour extérieure, une bannière qui avait l'air fraîchement peinte était tendue entre deux tours de garde désertes. Au pochoir, toujours en bleu, blanc et rouge, apparaissait le message suivant. « Bienvenue, Roland et Susanna. Et Othé aussi. Ça bouge toujours dans le monde libre. » Le château au-delà de la cour intérieure et de la rivière en cage qui faisait ici office de douve, était en effet constitué de blocs de pierre rouge foncé qui, avec le temps, avaient presque viré au noir. Des tours et des tourelles jaillissaient du corps du château dans une profusion qui heurtait l'œil et semblait défier les lois de la gravité. Le château ceint par cette armature violente était épuré et sans fioriture, à l'exception de l'œil taillé dans la clé de voûte, sur l'arcade en pierre de l'entrée principale. Deux des passerelles suspendues s'étaient effondrées, jonchant le sol de la cour d'honneur de blocs de pierre fracassés. Mais il en restait six autres, se croisant à différentes hauteurs, et cet enchevêtrement rappela à Susanna des bretelles d'autoroute. Comme c'était le cas avec les maisons, les portes et les fenêtres étaient étrangement étroites. Des corbeaux noirs et gras étaient perchés sur les rebords ou alignés le long des passerelles à contempler les visiteurs. Susanna se dégagea d'un bond du pousse-pousse, l'arme de Roland glissée dans sa ceinture à portée de main. Elle le rejoignit et observa elle aussi la grille principale, de leur côté des douves. Elle était ouverte. Derrière, un pont de pierre en ogive enjambait la rivière. Sous ce pont, l'eau sombre jaillissait d'une gorge de pierre d'une dizaine de mètres de profondeur. Il en montait un relent âpre et désagréable, et les rochers noirs et pointus qui filtraient le flot étaient ourlés d'une écume jaunâtre.
« Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? »
demanda-t-elle.
« On commence par écouter ces gars-là. »
dit le pistolero avec un mouvement de tête en direction des grandes portes, de l'autre côté de la cour pavée. Les portails étaient entrouverts et deux hommes apparurent. Deux hommes parfaitement ordinaires, pas des types tout maigrichons pour entrer par ces portes ridicules, comme elle s'y serait attendue.
Lorsqu'ils furent arrivés au milieu de la cour, un troisième se glissa par le portail et les rattrapa au pas de course. Ils n'avaient pas l'air armés, et quand les deux premiers atteignirent le pont, Susanna ne fut pas sidérée de constater qu'il s'agissait de jumeaux parfaits. Et le dernier leur ressemblait comme un frère, blanc, plutôt grand, avec de longs cheveux noirs. Des triplés, donc. Deux pour faire symétrique, le troisième juste au cas où comme remplaçant. Ils étaient vêtus de jeans et de gros cabans dont elle fut immédiatement et douloureusement jalouse. Les deux de devant portaient de volumineux paniers d'osier avec des poignées en cuir.
Mais leur des lunettes et une barbe, et ils ressembleraient à s'y méprendre à Stephen King, à l'époque où Eddie et moi l'avons rencontré.
Dit Roland à voix basse.
Vraiment? Tu dis vrai?
Oui. Tu te rappelles ce que je t'ai dit?
Je te laisse conduire la palabre.
Et avant la victoire vient la tentation. Ne l'oublie pas.
Je te le promets. Roland, est-ce que tu as peur d'eux?
Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à craindre de ces trois-là. Mais tiens-toi prête à faire feu.
Ils ne m'ont pas l'air armés?
Bien sûr. Il y avait ces paniers d'osier qu'ils portaient. Ils pouvaient contenir tout et n'importe quoi.
Quand même, tiens-toi prête.
Tu peux compter sur moi.
3. Malgré le vacarme de la rivière rugissant à gros bouillons sous le pont, le toc-toc régulier des talons des inconnus était audible. Les deux affublés de paniers avancèrent jusqu'à mi-pont et s'arrêtèrent au point culminant. Là, ils déposèrent leur chargement. Le troisième homme ne s'aventura pas au-delà du bout du pont, côté château, et se tint là, ses mains vides, poliment croisées devant lui. Susanna sentait à présent l'odeur de la viande cuite que devait contenir au moins l'un des paniers. Pas du porc long. Elle aurait plutôt dit un mélange de bœuf et de poulet rôti, parfum divin à ses narines. Elle se mit à saliver. « Aïl, Roland de Gilead !» lança l'homme à cheveux noirs situé à leur droite. « Aïl, Susanna de New York !»« Aïl, ôté de l'entre-deux-monde, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes !»« Lui, il est moche et les deux autres sont pires !» fit remarquer son compagnon. « Ne vous occupez pas de lui !» reprit le sosie de King situé à droite. « Ne vous occupez pas de lui !» répéta l'autre comme un perroquet, improvisant une grimace tellement laide qu'elle en était drôle.
« Et le double pour vous, »
répondit Roland au plus poli des deux. Il planta le talon devant lui et effectua un petit salut indifférent au-dessus de sa jambe tendue. Susanna fit la révérence à la mode de la cala en écartant des jupons imaginaires. Quant à Othé, il s'assit au talon gauche de Roland et se contenta de regarder ces deux hommes identiques plantés au milieu du pont. « Nous sommes des Uffis, » dit celui de droite. « Vous intuitez, Uffis, Roland ?»«
Oui. »
Puis en aparté à Susanna.
« C'est un vieux mot, très ancien en fait. Il prétend qu'ils sont capables de se transformer. »
Et il ajouta, à voix tellement basse qu'il était peu probable qu'ils puissent l'entendre avec le brouhaha de l'eau.
« Mais j'en doute. »«
C'est pourtant vrai, » répliqua celui de droite d'une voix plutôt aimable. « Les menteurs voient des menteurs partout, » fit remarquer celui de gauche en faisant rouler un œil bleu et cynique, un seul de ses yeux. Susanna ne croyait pas l'avoir vu faire à qui que ce soit auparavant. « Nous pouvons prendre la forme que nous voulons, » reprit celui de droite, « mais nous avions pour consigne de prendre l'apparence de quelqu'un que vous connaissiez et en qui vous auriez confiance. »
« Je ne ferai pas confiance à Cy King, plus que le temps de faire un salto arrière au plus lourd de ses deux grands-pères, » commenta Roland. « Il est encore plus énervant qu'une chèvre qui vient vous manger le pantalon. »«
Nous avons fait de notre mieux, » expliqua le Stephen King de droite. «
Nous aurions pu prendre la forme des didines, mais nous avons craint que ce soit trop douloureux pour la dame. On dirait plutôt que la dame serait contente de se taper une corde si elle pouvait la faire tenir droite entre ses cuisses, balança le sosie de gauche avec un regard concupiscent. Ça n'était pas nécessaire, commenta celui de derrière, celui aux mains croisées devant lui. Il s'exprimait avec les accents doucereux d'un arbitre en plein match. Susanna s'attendait presque à l'entendre condamner King le comique à 5 minutes dans la surface de réparation. Non qu'elle s'en serait plainte, d'ailleurs, car les saillies du comique l'avaient blessée. Elle lui rappelait trop Eddie. Roland laissa passer toute la petite scène sans broncher.
« Vous pourriez prendre chacun une forme différente ?» demanda Roland à King le sérieux.
Susanna entendit le pistolero déglutir de manière très audible avant de poser sa question, et elle en déduisit qu'elle n'était pas la seule à saliver du fait de l'odeur prégnante de viande qui s'élevait des paniers.
« Est-ce que l'un de vous pourrait prendre l'apparence de Cy King, un autre celle de Cy Kennedy et le dernier celle de Cy Nixon, par exemple ?»«
Bonne question. » fit le sérieux à droite. « Question ridicule !» répliqua le comique à gauche. « Rien à voir avec le sujet. Là, on part complètement dans l'espace. Et puis, est-ce que vous pouvez me citer un héros, un vrai, qui était aussi un intellectuel ?»« Le prince Hamlet du Danemark, » dit King l'arbitre d'une voix calme dans leur dos. Mais comme c'est le seul qui me vienne spontanément à l'esprit, peut-être n'est-il que l'exception qui confirme la règle. Le sérieux et le comique se tournèrent tous les deux vers lui. Lorsqu'il parut clair qu'il avait terminé, ils pivotèrent de nouveau vers Roland et Susanna. Sachant que nous sommes un seul et même être, dit le sérieux, ce qui par conséquent limite nos facultés, la réponse est non. Nous pourrions tous nous convertir en Kennedy ou en Nixon, mais...
Il y en avait hier, il y en aura demain, mais aujourd'hui on est en rupture de stock,
résuma Susanna. Elle était incapable de dire pourquoi cette réplique lui était venue à l'esprit, et encore moins pourquoi elle l'avait prononcée à voix haute. Mais King l'arbitre lui lança un « exactement » satisfait, en accompagnant d'un mouvement de la tête qui voulait dire « Va donc t'asseoir au premier rang, petite. Bouge-toi au nom de ton père, ordonna le comique. Reste là à regarder ces traîtres au seigneur du rouge, ça me donne envie de gerber. Très bien. Bien que les appeler traîtres me paraissent assez injustes, du moins si on inclut le cas à cette équation, puisque le nom que nous nous donnons serait pour vous imprononçable. C'est comme pour le rival de Superman, Monsieur Xikplk. Glissa le comique. « Autant utiliser ceux dont se servait l'os, celui que vous appelez le roi cramoisi. Je suis l'ego, pour simplifier. Et je réponds au nom de Fimalo. Ce gaillard, à mes côtés, c'est Fumalo. Il est notre ça. »
« Alors celui qui est resté derrière vous doit être Fimalo ?»
dit Susanna en le prononçant « Fiemalo. Et c'est quoi, votre surmoi ?»« Oh, brillant !» s'exclama Fumalo. « Je suis même sûr que tu sais dire Sigmund sans que ça rime avec Foufoun. » Il se pencha en avant et adressa à Susanna son sourire concupiscent. « Mais est-ce que tu sais les plaies, espèce de merlette sans pattes de New York ?»«
Ne vous occupez pas de lui !» répéta Fiemalo.
« Il s'est toujours senti menacé par les femmes. »«
Vous êtes donc l'ego, le ça et le surmoi de Stephen King ?»
récapitula Susanna. « Quelle bonne question !» s'exclama Fiemalo d'un ton approbateur. « Quelle question stupide !» s'exclama Fumalo d'un ton désapprobateur. « Est-ce que tes parents ont eu des gosses qui ont survécu, Merlette ?»«
Ne jouez pas à ce petit jeu avec moi !» l'avertit Susanna. « Sinon, je ramène Detta Walker et elle saura vous claquer le beignet. »
King l'arbitre reprit.
Je n'ai rien à voir avec Cy King, si ce n'est que je me suis approprié certains de ses traits physiques pour un court moment. Et j'ai cru comprendre que c'est tout ce dont vous disposiez, un court moment. Je ne ressens pas d'élan particulier pour votre cause, et je n'ai pas l'intention de m'écarter de mon chemin pour vous venir en aide. Pas de m'en écarter de beaucoup, du moins. Pourtant, je comprends que vous êtes tous les deux largement responsables du départ de Los. Sachant qu'il me retenait prisonnier et me traitait avec à peine plus de considération que son bouffon, voire son singe domestique, je ne suis pas du tout désolé de le voir partir. Je vous aiderai bien si ça se présente, un petit peu du moins, mais non, je ne m'écarterai pas de mon chemin pour vous. Que les choses soient bien claires, comme aurait dit feu votre ami Eddie Dean. Susanna essaya de ne pas tressaillir, mais ça faisait mal. Ça faisait mal. Comme auparavant, Fiemalo et Fumalo s'étaient tournés vers Fiemalo dès qu'ils avaient pris la parole. Ils firent de nouveau face à Roland et à Susanna. « La franchise est la meilleure politique qui soit, » dit Fiemalo avec un air hypocrite. « Cervantes. »« Les menteurs prospèrent, » répliqua Fiemalo avec un rictus cynique. « Anonyme. » C'est alors que Fiemalo intervint. Il arrivait que Los nous divise en 6, voire en 7, et cela pour la seule raison que ça faisait mal. Pourtant, nous ne pouvions pas partir, pas plus que quiconque dans ce château, parce qu'il avait dressé une ligne de mort autour des remparts. « Nous avons cru qu'il allait nous tuer avant de partir, » dit Fiemalo, cette fois-ci sans son rictus cynique à la « va te faire foutre ». Il arborait une expression de gravité et d'introspection, celle d'un homme qui jette les yeux en arrière sur une situation qui aurait pu tourner au désastre. À très peu de choses près. Fiemalo. Il en a tué bon nombre, d'ailleurs. Il a fait décapiter son ministre d'État, Fiemalo, qui était atteint d'une syphilis bien avancée et n'avait aucune idée de ce qui était en train de lui arriver, pas plus qu'un goret qu'on amène à l'abattoir, une vraie pitié. Fiemalo. Il a fait mettre en ligne les employés de cuisine et les domestiques, Fiemalo, qui tous lui avaient été fidèles, très fidèles même, Fiemalo. Et il leur a fait ingurgiter du poison, là, sous ses yeux. Il aurait pu les faire tuer dans leur sommeil s'il avait voulu, Fiemalo. Il aurait simplement suffi qu'ils le désirent en pensée, Fiemalo. Pourtant, il a choisi de leur faire avaler du poison, de la mort au rat. Ils en ont avalé de grosses bouchées marron et ils sont morts dans d'atroces convulsions, sous ses yeux, au pied de son trône. Fiemalo. Un trône fait de crâne, vous intuitez, Fiemalo. Il est resté assis là, le coude posé sur le genou, le menton en appui sur le poing, comme un homme perdu dans ses pensées, essayant de résoudre la quadrature du cercle, ou en quête du nombre premier absolu. Le tout en les regardant se tordre et vomir leurs tripes sur le carrelage de la chambre d'audience. Fiemalo, avec une pointe d'excitation pleine de lascivité que Susanna trouva particulièrement déplaisante. Certains sont morts en suppliant qu'on leur donne à boire. C'est un poison qui donne soif, si fait, et nous étions persuadés d'être les prochains. Sur ces paroles, Fiemalo finit par laisser paraître une pointe, sinon de colère, d'offuscation. Vous allez me laisser raconter et en finir, qu'ils puissent décider s'ils avancent ou reculent? Toujours à faire le petit chef, commenta Fiemalo, avant de sombrer dans un silence boudeur. Au-dessus d'eux, les corbeaux de château s'ébrouèrent un peu pour mieux s'installer et se remirent à les inspecter de leurs yeux noirs et brillants. Dans l'espoir évident de se repaître de ceux qui ne repartiraient pas, pensa Susanna. Ils possédaient 6 des cristaux du magicien encore vivant, reprit Fiemalo. Et alors que vous étiez toujours à Calabrinstergis, il a vu dans les boules quelque chose qui a achevé de le rendre fou. Nous ne savons pas avec certitude de quoi il s'agissait, car nous n'avons rien vu par nous-mêmes, mais nous avons comme l'impression que c'était votre victoire, non seulement à la Cala, mais aussi plus tard, à Algulciento. De telles victoires signaient l'arrêt de mort de sa stratégie d'abattre la tour à distance en brisant les rayons.
« Bien sûr que c'était ça, » dit Fimalo d'une voix douce. Et une fois encore, les deux Stephen King sur le pont se tournèrent vers lui.
Ça ne pouvait être que ça. Ce qui l'a amené au bord de la démence au départ, c'était deux pulsions contradictoires dans son esprit. Celle de mettre la tour à bas et celle d'y arriver avant que vous y arriviez, Roland, et de la gravir jusqu'au sommet. Pour la détruire. Ou pour la gouverner. Je ne pense pas qu'il ait eu un jour le souci réel de la comprendre. Son seul but était de vous vaincre, d'arriver avant vous auprès de cette chose que vous désiriez vraiment et de vous l'arracher des mains. C'était surtout ça qui lui importait vraiment.
Vous serez sans doute ravi d'apprendre combien vous l'avez fait divaguer, combien il a maudit votre nom les dernières semaines avant de casser ses précieux jouets, dit Fumalo. Combien il en est venu à vous craindre, pour autant qu'il soit capable de crainte.
Pas lui, le contredit Fiemalo. Et Susanna lui trouva un air abattu.
Lui, ça ne le ravirait pas plus que ça. Il gagne avec autant de mauvaise grâce qu'il perd.
Quand le roi rouge a vu que l'algule allait tomber entre vos mains, intervint Fiemalo, il a compris que les rayons encore en état allaient se régénérer. Plus encore, que pour finir, ces deux rayons encore valides allaient recréer les autres rayons, les retisser kilomètre par kilomètre, roue par roue. Si cela finit par se produire, alors...
Roland hochait la tête, et Susanna lut dans ses yeux une expression totalement inédite, un mélange de joie et de surprise.
« Peut-être qu'il sait gagner après tout, » se dit-elle.
Alors ce qui a changé pourra peut-être reprendre sa place,
compléta le pistolero.
Peut-être l'entre-deux mondes et le monde de l'intérieur.
Il marqua une pause.
Peut-être même Gilead, la lumière, le blanc.
Pas de peut-être qui tienne, dit Fimalo, car le cas est une roue, et tant qu'une roue n'est pas brisée, elle roulera toujours. Sauf si le roi cramoisi réussit à devenir soit le seigneur de la tour sombre, soit le seigneur bourreau, tout ce qui fut sera de nouveau.
Folie, dit Fumalo, et une folie destructrice avec ça, mais évidemment le grand rouge a toujours été le côté fou de Gan. Il adressa à Susanna un petit sourire narquois et ignoble.
Encore Sigmund,
dame Merlette. Fiemalo reprit son explication. Et après avoir fracassé les cristaux et achevé le massacre,
c'est ce qu'on aimerait bien comprendre, glissa Fumalo. Si bien sûr, vous avez encore un semblant de cerveau pour réussir à démêler un peu tout ça.
Une fois toutes ces tâches terminées, il s'est donné la mort, dit Fimalo. Et une fois encore, les deux autres se tournèrent vers lui, comme s'ils ne pouvaient s'en empêcher.
« L'a-t-il fait avec une petite cuillère ?»
demanda Roland.
« Car c'est la prophétie dans laquelle nous avons grandi, mes amis et moi, répétée dans un petit verre de mirliton. »
« En effet, » acquiesça Fimalo. J'ai cru qu'il allait se trancher la gorge avec, car il avait fait affûter le bord de la cuillère, comme on le fait avec certains plats. Vous intuitez. Le cas est une roue et il revient toujours à son point de départ. Au lieu de quoi, il l'a avalé. Il l'a avalé, vous imaginez ça? De grosses gouttes de sang se sont mises à couler de sa bouche. Une inondation. Puis il a enfourché le plus grand de ses chevaux gris. Il l'appelle Nise, du nom de la terre du sommeil et des rêves, et il a chevauché vers le sud-est, dans les terres blanches d'Empatica, avec son petit bout de Guna près de lui, à l'avant de sa selle.
Il sourit.
Il y a des réserves gigantesques de nourriture ici, mais lui n'en a aucun besoin, comme vous l'intuitez peut-être. L'os ne mange plus.
Attendez une minute. Temps mort,
demanda Susanna en levant les mains et en les plaçant en forme de T, geste qu'elle avait emprunté à Eddie sans même s'en rendre compte.
S'il a avalé une petite cuillère tranchante et qu'il s'est ouvert la gorge en s'étouffant,
« Dame Merlette commence à voir de la lumière !»
exulta Fumalot en secouant les mains vers le ciel.
« Alors, comment est-ce qu'il pouvait faire quoi que ce soit ?»«
L'os ne peut mourir !»
expliqua Fiemalo, comme s'il s'adressait à une enfant de 3 ans qui fait exprès de ne pas comprendre.
« Et vous ? Vous, pauvre andouille !»
ajouta son double avec une méchanceté pleine de bonne humeur.
« Vous ne pouvez tuer un homme qui est déjà mort, » termina Fimalo. « À l'époque, Roland, vos pistolets auraient pu avoir raison de lui. »
Roland opina.
« Transmis de père en fils, avec leur barillet, fait du métal de la grande épée d'Arthur l'aîné, Excalibur. Oui, ça fait aussi partie de la prophétie, comme il le sait parfaitement. »
Mais à présent, il est à l'abri même de vos pistolets. Il s'est mis hors d'atteinte, au-delà. Il est non mort.
Nous avons des raisons de croire qu'il s'est fait expédier dans une galerie à l'extérieur de la tour, dit Roland. Non mort ou pas, il n'aurait jamais pu atteindre le sommet sans un sigle de l'aîné. S'il en savait autant de la prophétie, il n'a pas pu ignorer ce détail.
Un sourire acerbe se dessina sur les lèvres de Fimalo.
Si fait. Mais comme Horatio a tenu le pont dans une histoire qu'on raconte dans le monde de Susanna, l'os, le roi cramoisi, tient maintenant la tour sombre. Il en a trouvé l'entrée et s'est précipité dans sa gueule. Seulement, il ne peut en atteindre le sommet, c'est vrai. Mais tant qu'il la tiendra avec une force pareille, vous non plus. Il semble que ce bon vieux roi rouge ne soit pas aussi fou qu'il y paraît, finalement, commenta Fiemalo.
Les tarés dans sa tête, ajouta Fumalo.
Il se tapota la tête d'un air grave, puis explosa de rire.
Mais si vous persistez, dit Fimalo, vous lui apportez les sigleux de la ligne d'Elde dont il a besoin pour prendre possession de ce qui, pour l'instant, le retient prisonnier.
« Il faudrait d'abord qu'il me les prenne à moi, » dit Roland, « à nous. »
Il parlait sans chercher à se montrer théâtral, comme s'il commentait le temps qu'il faisait.
« Exact, » acquiesça Fimalo. « Mais réfléchissez un peu, Roland. Vous ne pouvez pas le tuer avec ses sigleux, mais il reste possible qu'il réussisse à vous les dérober, car il a l'esprit retors et le bras long. Et s'il devait y parvenir ?» Eh bien, imaginez un roi mort et dément au sommet de la tour sombre avec en sa possession une paire de grands pistolets antiques. De là-haut, il pourrait gouverner, mais étant donné sa folie, je pense qu'il choisirait d'abattre la tour, ce qu'il réussira peut-être à faire, avec ou sans les rayons.
Depuis l'autre côté du pont, Fimalo les examina tous deux d'un air grave.
Et alors, tout ne serait plus que ténèbres.